Nous allons donc écouter le docteur Jeannine Fontaine.
J'espère que vous pardonnerez ma voix. Hier, je me demandais si je pouvais venir vous parler aujourd'hui. J'étais victime du froid, du vent et du surmenage. Alors, en arrivant ici, j'ai été prise d'une certaine émotion, d'une certaine crainte, en me disant, est-ce que je suis vraiment ici à ma place, parce que j'ai vu écrit psychanalyse et je n'ai jamais été psychanalysée. Alors, je m'interroge sur l'opportunité, évidemment, de vous dire mon chemin, qui est finalement un chemin ouvert par la sophrologie, c'est-à-dire par la phénoménologie. J'aimerais savoir, pour orienter un petit peu mon discours, qui n'est pas préparé, savoir qui est dans la salle, si certains d'entre vous, certaines, ont lu un ou plusieurs de mes livres. Ou quelques-uns. Cela nécessite tout de même que je me présente. Je suis médecin, ancien anesthésiste, réanimateur, cardiologue, transfuseur. Donc, j'ai un parcours de médecin hospitalier, d'avant-garde, puisque j'étais l'anesthésiste réanimateur des premiers cœurs poumons artificiels, de la première greffe de rein, etc. Donc j'étais quelqu'un d'avant-garde. Et j'ai continué à être à l'avant-garde de mes confrères dans l'ensemble, puisque en 1980, j'ai fait un scandale en sortant médecin des trois corps. Qu'est-ce que c'était que l'histoire de médecin des trois corps ? C'était l'histoire de quelqu'un parfaitement tranquille dans la vie, chef de service d'anesthésie et de réanimation, et qui tout d'un coup, au moment de la maladie de sa mère, ne pouvait la calmer, l'apaiser. En tant qu'anesthésiste, c'était extrêmement choquant. Ni l'empêcher de mourir, puisque j'ai essayé de faire une réanimation cardiaque sans succès. Donc, impossible de la réanimer. Il est évident que ce fut un choc. J'ai entendu une partie du discours de l'intervenant précédent, qui était fort intéressant. Et j'ai vécu un choc au moment de ma naissance, puisque je suis née à 7 mois. Au cours d'une chute de ma mère, et là j'ai vécu un nouveau choc au cours d'une chute, une chute de ma croyance en la médecine. Et ceci, je l'ai dit haut et fort autour de moi, il y a quelque chose d'autre à faire, il y a autre chose que le corps. Et j'ai commencé par faire de la sophrologie, puisque c'était la seule méthode qui était à mon regard, qui s'offrait à mon regard pour essayer de calmer ces derniers instants. Donc j'étais l'élève de Caicedo dès le début, en 1970, au premier congrès de Barcelone. Et là j'ai rencontré d'autres personnes qui pensaient autrement que nous le pensions à l'hôpital. Et ils m'ont intéressée et j'ai suivi tout le cursus des médecines différentes de l'époque. Et j'ai démissionné de l'hôpital, ce qui était évidemment un scandale, non seulement pour mon entourage médical, mais pour ma famille. Néanmoins, l'émerveillement était tellement grand que j'ai tenu mon cap et j'ai continué d'étudier les médecines différentes et même tout doucement de pratiquer. Et puis, et c'est là où j'entre dans le psy. C'est qu'un jour, moi qui vivais dans l'action, dans le faire, jusqu'à présent, d'ailleurs j'étais très physique, très corporelle, puisque je voulais être danseuse, après, comme mes parents ne voulaient pas que je sois danseuse, je voulais être professeure de culture physique, et subitement j'ai voulu être médecin à la suite d'une rencontre d'un livre de Claude Bernard. Donc, j'étais une personne très physique, avec de temps en temps un sursaut qui me projetait ailleurs. Et un jour, j'ai eu une vision en me réveillant. Et cette vision concernait, je raccourcis les circonstances, concernait un voyage aux Philippines. Étant très rationnelle, j'ai voulu savoir le pourquoi de cette vision, ce que faisaient les Philippines là-dedans, et je me suis trouvée l'élève d'Antonio Acquaoa, qui était à ce moment-là le plus célèbre guérisseur des Philippines. Et l'on prétendait qu'il sortait des organes du corps, qu'il soignait, qu'il sortait des organes, donc qu'il les opérait, qu'il les rentrait, et qu'il n'y avait pas de cicatrices, qu'on ne voyait plus rien. C'était tout au moins le discours des gens qui en revenaient, et en particulier des journalistes. Tout cela m'a semblé bizarre. Et comme j'avais beaucoup vécu en salle d'opération et que cette vision survenait, je suis allée aux Philippines, je suis devenue l'élève d'Antonio Acquaoa et je me suis aperçue que nous n'avions pas le même langage. Quand on disait « nous, on ouvre le corps », sous-entendu physique, lui disait « j'ouvre le corps éthérique ». Mais comme corps éthérique n'a pas de valeur pour nous, ça ne signifie rien du tout, on oubliait éthérique. Et donc, on les prenait pour des fantaisistes. Il ne sortait pas d'objets, il ne sortait pas d'organes. Il y avait des matérialisations de différentes formes, de différentes couleurs, qui n'avait rien à voir avec un organe. Je le répète, j'étais anesthésiste, réanimateur, je savais ce que c'était un organe. J'avais aussi disséqué, comme tous les médecins. Et donc, je me suis trouvée en porte-à-faux avec toute l'opinion qui régnait en France. J'étais déjà en porte-à-faux avec l'hôpital, puisque j'avais démissionné, donc avec mes confrères, j'étais en porte-à-faux avec ma famille, j'étais en porte-à-faux avec l'opinion publique concernant les guérisseurs. Seule mon ardeur et ma santé physique me permettaient, ma passion aussi, me permettaient de tenir le coup. Je dois dire que ce sont des choses qui arrivent à un nombre d'entre nous et j'ai reçu et je reçois encore des lettres dans lesquelles les lecteurs ou les patients se reconnaissent dans mes livres et me disent combien ils souffrent de ne pouvoir être compris. Et je ne suis toujours pas comprise après, ça fait 30 ans, puisque mon mari était chirurgien. J'ai une fille qui est ophtalmologiste, qui ne me voit plus depuis 25 ans, et je n'ai pas eu le droit de voir les petits-enfants que j'aurais pu polluer. Heureusement, j'ai une autre fille qui, elle, est neuro-ophtalmologiste, mais qui admet tout et qui a sans doute une autre constitution. Et comme je fais pas mal d'astrologie médicale et que je suis à mon troisième livre d'astrologie médicale, je peux voir les différences de constitution entre mes deux enfants. Je vous dis ceci parce que c'est un phénomène donc souvent vécu et qui montre bien les différences de constitution. Pour moi donc, mon expérience aux Philippines m'a fait comprendre que premièrement les guérisseurs ça existait. que les Européens, que mes confrères pouvaient se tromper, que les patrons que j'admirais, les plus grands, n'étaient pas infaillibles et qu'il fallait tout remettre en question, qu'il y avait du travail sur la planche. Alors, seul, discrètement ou parfois brutalement, entrant dans le chou, si on peut dire, de mes confrères, je me suis affirmée, j'ai fait mon petit chemin. J'ai fait mon petit chemin parce qu'il s'est trouvé que moi aussi j'étais guérisseur. Je ne le croyais pas, je croyais être une scientifique, j'analysais les choses, mais j'ai bien été obligée d'admettre que j'étais guérisseur, c'est-à-dire que j'avais une énergie supérieure à la normale. Parce que j'ai compris auprès d'Akpawa que toutes les spécialités que l'on apprenait, l'homéopathie, l'acupuncture, l'auriculomédecine, l'ostéopathie, la sophrologie, tout cela touchait une seule et même chose que j'appelais l'énergie, enfin qui s'appelle l'énergie et qui touchait au corps énergétique. Alors, restait à connaître l'anatomie de ce corps invisible qui agissait, qui était agi, et comment, quand on était une scientifique. J'ai commencé par observer qu'il y avait trois sortes de résultats chez les malades. Premièrement, ceux qui étaient intégralement guéris par l'intervention du guérisseur ou par l'intervention des médecines différentes. J'ai pensé que nous travaillions à ce moment-là sur ce que j'appellerais le deuxième corps, c'est-à-dire le corps énergétique, qui était remis en ordre, dont l'anatomie, puisque je supposais qu'il avait une anatomie, une physiologie, une physiopathologie, était remis en état. Il y avait des gens qui n'étaient absolument pas guéris, mais qui étaient transformés. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus peur de la mort, ils avaient le moral, ils faisaient avec ce dont ils disposaient. Et là, j'ai pensé qu'il y avait quelque chose, un élément supérieur que j'ai appelé le corps spirituel. Et puis, ceux qui résistaient aux guérisseurs ou qui ne répondaient pas très bien, mais qui relevaient de la médecine classique, c'était le corps physique. Donc, j'étais en présence du corps physique, du corps énergétique, du corps spirituel, auquel il fallait ajouter le corps éthérique dont parlait Akpawa. Et j'ai fait la rencontre d'un physicien, deux même, grands physiciens, après mon premier livre, Médecin des trois corps, et qui m'ont dirigé un petit peu, orienté, vers la physique quantique. Ils m'ont dit, vous avez sûrement découvert la médecine quantique en faisant ce que vous faites. Alors j'ai étudié un peu la physique quantique et avec cette petite idée derrière la tête, en examinant les malades, car je suis allée 7 fois aux Philippines tout de même, entre-temps j'avais quelques malades qui m'étaient confiés par des amis ou par Jacques Donat par exemple, qui avait été aussi mon maître en sophrologie, et je les palpais. Je palpais le visible et je palpais aussi l'invisible. Et petit à petit, j'ai compris que nous étions faits comme l'atome de Niels Bohr. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce qu'est l'atome de Niels Bohr. C'est fait d'un noyau et autour de couches d'électrons. Avec des lois strictes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des échanges d'électrons. Quand il y a échange d'électrons, si l'électron descend d'une couche supérieure vers une couche inférieure, la couche inférieure va augmenter son énergie. Et la couche supérieure, elle va capter une énergie de la couche qui est au-dessus, etc., etc., etc. C'est-à-dire que l'énergie vient du dehors. L'énergie étant là, le corps physique a des capacités de défense qu'il n'aurait pas s'il n'avait pas d'énergie. Donc, il y a un auto-traitement. À partir de l'énergie, le corps physique est capable, dans une certaine mesure, de s'auto-traiter. Je vais vous faire un petit dessin tout de même au tableau. Alors, voilà le noyau. Imaginez que c'est le corps physique.